Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
On est ensemble jusqu'à 20h avec, dans un instant, le journal d'Isabelle Millet. Juste après, on ouvrira ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des Idées. On va parler cinéma. C'est mercredi, c'est jour de sortie dans les salles de cinéma. Et alors que le festival de Cannes a débuté hier, l'industrie a-t-elle trinqué après ce Covid ? Nous serons notamment avec Dominique Besnéard. Vous prenez vous aussi la parole, je vous attends en 39-21. Mais d'abord, le point sur l'info avec vous, Isabelle Millet. Rebonsoir Isabelle.
Rebonsoir Thierry.
Bon début de soirée, vous écoutez Europa, il est 19h.
On a gagné et on gagnera encore. Ce que je veux, c'est que les personnes à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soit ceux qui harcèlent, ceux qui menacent de mort, ceux qui incitent au suicide.
Le procédé harceleur de la jeune Mila, qui est aussi celui de l'usage des réseaux sociaux, 11 jeunes condamnés à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis.
Les Français sur leur smartphone sont encore trop souvent privés d'une connexion suffisante pour les usages les plus simples.
15% d'entre eux ont un débit insuffisant et ça ne concerne pas forcément les zones blanches.
Vous avez aimé le livre, vous aimez sûrement l'entendre dans la voix de son auteur. Nicolas Sarkozy publie une version audio du temps des tempêtes.
1 800 000 jeunes Français ont prévu de partir en colonie de vacances cet été. Premier départ dès aujourd'hui.
Grosse journée sur le Tour de France, double ascension sur le Mont Ventoux et victoire surprise du Belge Valart.
Et puis grosse ambiance en perspective ce soir à Wembley pour la deuxième demi-finale de l'Euro entre l'Angleterre et le Danemark.
La tendance météo Marlène Duré.
Un début juillet pas foufou, de la fraîcheur avec des valeurs parfois 4 à 5 degrés en dessous des moyennes saisonnières. Un soleil qui a du mal à s'imposer durablement dans un contexte instable. Toujours des averses demain, en particulier dans les régions proches des frontières de l'Est, non décidément pour prendre des couleurs. Direction la Grande Bleue.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une affaire dont on avait beaucoup parlé sur Europe 1. L'histoire de Mila, cette adolescente harcelée et même menacée de mort sur les réseaux sociaux après la publication d'une vidéo sur l'islam. Elle avait dû changer d'établissement scolaire et même déménager. Aujourd'hui encore, elle est sous protection judiciaire.
Ces harceleurs ont donc été condamnés, Marion Dubreuil, à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis.
Oui, c'est avec beaucoup de pédagogie que le président a rappelé que les réseaux sociaux constituaient un espace public. Tout message malveillant a vocation à être lu par le plus grand nombre, y compris la victime. C'est une entreprise de harcèlement. Le magistrat a insisté sur les conséquences psychologiques pour Mila. Les 11 condamnés devront lui verser 1500 euros de dommages et intérêts. La jeune femme, en robe fleurie et cheveux verts décolorés, a salué cette décision.
On a gagné et on gagnera encore. Ce que je veux, c'est que les personnes qui seraient considérées comme des pestiférés, à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soit ceux qui harcèlent, qui privent de la liberté des gens, ceux qui menacent de mort, ceux qui incitent au suicide.
Un prévenu a immédiatement annoncé par la voix de son avocat, Juan Branco, qu'il allait faire appel. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour ce tweet notamment. La Mila, elle continuera jusqu'à ce que quelqu'un la trouve et la crève.
Parce que l'on considère qu'il y a des enjeux de droit essentiels dans le cadre de cette affaire et que l'extrême violence qui consiste à arrêter aléatoirement 13 citoyens du fait d'un mouvement de masse auquel ils n'ont contribué que marginalement devrait inquiéter l'ensemble des Français.
Si cette condamnation est définitive, elle sera inscrite à leur casier judiciaire, sauf pour un prévenu qui a exprimé des regrets.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
On attend d'un instant à l'autre le verdict dans le procès Troadec. Les jurés délibèrent en ce moment même. L'accusé principal Hubert Caouissin a demandé pardon ce matin. La prison à perpétuité a été requise à son encontre, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
Le variant Delta représente désormais 40% des contaminations détectées cette semaine dans notre pays. Le porte-parole du gouvernement confirme le risque d'une quatrième vague. Le taux d'incidence a augmenté de 20% en une semaine. Une hausse qui se confirme dans 11 régions de métropole, particulièrement en Île-de-France, en PACA, en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne. Un nouveau conseil de défense se tiendra lundi. Le porte-parole du gouvernement appelle de nouveau les Français à se faire vacciner le vaccin carte maîtresse pour lutter contre la pandémie.
Éric Dupond-Moretti épinglé par Mediapart pour avoir oublié de déclarer plus de 300 000 euros de revenus à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Le cabinet du garde des Sceaux parle d'une erreur de son comptable d'un montant de 180 000 euros. Erreur qui a été rectifiée dès qu'elle a été connue. Les temps sont durs, en tout cas pour Éric Dupond-Moretti qui est par ailleurs convoqué le 16 juillet à la Cour de justice de la République en vue de sa mise en examen dans une enquête sur des soupçons de prise illégale d'intérêt.
On parle souvent de la qualité du réseau Internet pointé du doigt, en particulier dans les zones blanches. Eh bien, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, a décidé d'affiner encore ses calculs.
Oui, pour avoir une idée vraiment très précise sur l'ensemble du territoire. Et Clément Le Saffre, on découvre que 15% des Français, 15% ont clairement un débit insuffisant.
Oui, c'est l'enseignement d'un nouvel indicateur qui vient compléter les traditionnelles cartes de couverture 3G et 4G. L'ARCEP a défini en fait un seuil en dessous duquel le réseau Internet mobile est jugé insuffisant pour utiliser correctement son téléphone, c'est-à-dire naviguer sur le web, lire ses mails, regarder des vidéos avec une image quand même de bonne qualité. Ce seuil, c'est le débit de 3 mégabits par seconde. Alors comme ça, ça ne vous parle pas forcément. En fait, plus d'un million de mesures ont été effectuées en 2020 sur tout le territoire pour comparer. Et donc, il apparaît qu'un Français sur 6 vit dans une zone avec un débit insuffisant. La situation n'est évidemment pas la même partout. Dans les grandes villes, cela concerne moins d'un habitant sur 10. En zone rurale, ça monte à 20%. Mais la surprise, c'est que les campagnes ne sont pas les moins bien loties. Ce sont les villes de taille intermédiaire, de 10 000 à 200 000 habitants. Et bien dans ces zones, un habitant sur quatre souffre d'un réseau mobile insuffisant. Les opérateurs devront donc peut-être faire des corrections. Et à noter que malgré ces disparités, quand même, la qualité globale de l'Internet mobile s'améliore en France. Le débit moyen a été multiplié par 2 en 4 ans.
Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Merci Clément Le Saffre du service Écho d'Europe 1.
Alors que la droite se déchire autour de son futur candidat à la présidentielle, Nicolas Sarkozy, lui, s'est lancé un nouveau défi.
Une version audio de son livre « Le temps des tempêtes » sort aujourd'hui, édité par le numéro 1 du secteur, Audible. Avec une particularité, Aurélie Herbemont, Nicolas Sarkozy a tenu à l'enregistrer lui-même.
Et oui, lui qui écrit tous ses livres à la main, au stylo bille, a voulu passer derrière le micro pour lire en personne son dernier ouvrage, « Le temps des tempêtes », sorti l'été dernier, consacré à la première moitié du quinquennat. Il aura fallu 9 sessions d'enregistrement de près de 3 heures chacune pour venir à bout des 520 pages de l'édition papier. Résultat, plus de 13 heures de Nicolas Sarkozy, lu par Nicolas Sarkozy.
« J'ai toujours essayé de me rendre indispensable, partout où je me trouvais. Pour y parvenir, quoi de mieux qu'une situation qui semble si inextricable que personne ne songe à s'y frotter ? Ainsi, jeune parlementaire et membre anonyme de la direction de ma famille politique, j'étais toujours le premier à vouloir monter au front lors d'un événement politique contraire ou pour une soirée électorale décevante, voire catastrophique. »
Un enregistrement qu'il a effectué seul, enfermé dans un studio, d'où cette confidence de l'ancien président aux Parisiens. C'est beaucoup plus d'énergie qu'un meeting parce que vous êtes seul, vous n'êtes pas porté par l'énergie du public. C'est son fils, Pierre, qui lui a conseillé de se lancer dans ce marathon. Nicolas Sarkozy a vendu 220 000 exemplaires de la version papier et il est possible que ses plus fervents admirateurs soient preneurs de la version audio.
Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1.
Europe 1. Thierry Dagiral.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. On parlera colonies de vacances, cyclisme et football.
Avec la deuxième demi-finale de l'Euro, bien sûr, ce soir entre le Danemark et l'Angleterre. Grosse ambiance déjà à Wembley.
A tout de suite.
Et maintenant, comme tous les mercredis, parlons énergie avec Antargaz. On retrouve Yves de Risbourg.
Bonjour Julien Leroy, vous êtes le premier hôte protocolaire pour Antargaz sur le Tour de France depuis l'année dernière. Et donc, premier homme à remettre les prix de la combativité Antargaz. Concrètement, quel est votre job en dehors de la remise des prix ?
Ça commence le matin de bonne heure à 8h. On est sur le village départ. On accueille les invités et après on part sur l'arrivée parce qu'on suit le Tour de France toute la journée. Donc on fait à peu près 6000 km durant ce mois de Tour de France.
Alors justement, pour faire les 6000 km du Tour de France, vous roulez avec du GPL Antargaz. Concrètement, quels sont les avantages de ce carburant ?
L'avantage du GPL, déjà, ça va être au niveau de la conduite. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup moins bruyant. Donc quand vous conduisez, ça amène un confort vraiment supplémentaire. C'est économique parce que le plein est beaucoup moins cher. Et en plus, le remplissage du plein est beaucoup plus court qu'un plein de gasoil ou d'essence. Et au niveau écologique, c'est vraiment intéressant parce qu'on a 20% d'économie de CO2 rejetée par rapport à un véhicule essence.
Merci Julien Leroy, à bientôt.
Merci Yves et à la semaine prochaine pour parler énergie avec Antargaz. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
D'ailleurs, vous avez une alarme, vous, non ?
Oui, on a fait installer Verisure.
Et alors, c'est comment ?
Ah, super rassurant.
Oui, surtout qu'il y a beaucoup de cambriolages dans notre quartier pendant les vacances.
On devrait vraiment prendre une alarme, nous aussi, avant de partir.
Ah, t'as raison.
Rendez-vous sur verisure.fr pour commencer votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verisure.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
19h08, la suite du journal d'Isabelle Millet sur Europe 1. Vous savez que les vacances scolaires ont officiellement débuté hier soir et ce matin, c'était déjà les premiers départs en colo.
Ah, les jolies colonies de vacances, ça concerne 1 800 000 enfants cet été, chiffre officiel. Parmi eux, ces jeunes franciliens prêts pour le grand départ en Bretagne après une année marquée par la pandémie.
Et on a, parce que moi, c'est ma première colo.
Je suis déjà allée en colo, mais pas en Bretagne. Oh, je me sens bien, ça fait du bien. Vu que ça fait longtemps que je ne suis pas partie très loin, à la mer.
Moi, je voulais m'amuser en colo. pas penser au Covid tout le temps et avoir peur. C'est un peu énervant le masque, mais bon, c'est la sécurité.
On va être souvent en plein air, donc oui. On va pouvoir les enlever.
Mes parents, ils sont contents que je parte en vacances parce qu'ils ont vu qu'on on pouvait plus trop sortir.
Et c'est aussi qu'en vacances, à la colo, on s'amuse bien. On va faire des pêches au crabe, on va faire des activités manuelles. La dernière fois, on a même fait des cartes Pokémon, fait maison.
Voilà, des jeunes Parisiens en route pour la Bretagne, au micro-européen de Marion Gauthier.
Et elle, Isabelle était en route vers le bonheur quand elle a été cambriolée.
Oui, la star de télé-réalité Nabila a été victime, figurez-vous, d'un vol dans sa chambre d'hôtel. Ça s'est passé lors de la réception de son mariage avec Thomas Vergara au château de Chantilly. Préjudice estimé plus de 150 000 euros.
Eh ben, le Tour de France, 11e étape dans le Vaucluse aujourd'hui. Et c'est un Belge qui s'impose.
Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1.
Victoire de Wout Van Aert à Malocène après une double ascension du Mont Ventoux. Le Français Guillaume Martin, lui, a fini 12e de l'étape. Il est le meilleur Français actuellement au classement général. 9e, c'est plutôt pas mal. Il est satisfait de sa performance.
Je pense qu'au bout d'une heure de course, tout le monde était déjà bien entamé. Puis ensuite, on a eu un schéma de course assez classique avec Ineos qui a fait le tempo. Je me suis accroché comme j'ai pu. C'était un tempo élevé, puis surtout, je pense qu'on était tous déjà, on n'avait plus beaucoup de force. Et c'était la première étape finalement où je jouais avec les favoris et j'avais envie de m'étalonner à la régulière. Je suis pas si mal non plus, donc j'ai vu pas mal de coureurs avoir des défaillances aujourd'hui et je compte sur ma régularité pour faire un bon général, mais j'oublie pas l'objectif de la victoire d'étape, donc j'aimerais bien être régulier jusqu'à la fin, mais avoir quand même un coup d'éclat sur une journée pour aller chercher une victoire d'étape.
Le Français Guillaume Martin au micro européen d'Axel May. Le Slovène Pogacar conserve le maillot jaune.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy, l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le foot à présent et on attend de connaître l'adversaire ce soir de l'Italie en finale de l'Euro.
Oui, le Danemark invité surprise de cet Euro ou l'Angleterre qui reçoit chez elle à Wembley. Cyril de la Morinerie, on vous retrouve en direct sur place. Oui. Bonsoir Cyril.
Bonsoir à tous.
Vous allez nous faire vivre ce match en direct aux côtés de Jean-François Pérez et vous êtes entouré de dizaines de milliers de fans anglais qui ont déjà investi le stade. Apparemment, il va y avoir beaucoup d'ambiance. Hein.
Oui, il y aura énormément d'ambiance. Alors, ce qui nous a frappé, c'est que dès ce matin, il y avait déjà beaucoup de monde autour du stade, des fans venus de toute l'Angleterre. Là, on chante, on s'attable autour d'un fish and chips, on trinque avec une bière avant de pénétrer dans le Saint des Saints Wembley. Jour de fête pour ce groupe de supporters qui agite ce très beau drapeau anglais, la Croix-Rouge de Saint-Georges, et un fond blanc, bien sûr, pour ce drapeau que vous connaissez.
Ladies, are we excited?
Oh yeah!
Yes!
Alors l'équipe d'Angleterre suscite beaucoup d'enthousiasme ici parce qu'elle reflète enfin la domination des clubs anglais en Europe, des joueurs qui évoluent presque dans le championnat britannique. Avant il y avait Wayne Rooney et les autres et maintenant il y a l'Angleterre avec une équipe homogène, talentueuse et un capitaine adulé, l'attaquant Harry Kane qui fait des merveilles, explique Justin.
Harry Kane est un excellent attaquant. Il n'est pas aussi rapide qu'Mbappé, il est un peu comme Benzema, il a tout dans la tête. Il est vraiment bon, c'est un attaquant de grande classe. Il marque des buts et tout ce qu'il apporte à l'équipe, c'est une vraie valeur ajoutée.
Alors les Danois sont très peu nombreux en raison des restrictions sanitaires. L'Angleterre va donc jouer dans un stade acquis à sa cause devant plus de 65 000 spectateurs. Les audiences télé devraient de nouveau battre des records ce soir en Angleterre.
Et les audiences radio aussi, on l'espère, puisque ce match, nous le suivrons en direct en intégralité sur Europe 1. En direct de Wembley, donc avec Cyril de la Morinerie et Jean-François Pérez, Danemark-Angleterre, coup d'envoi à 21h, grande soirée foot dès 20h, bien entendu, sur Europe 1. Puis à propos de foot, le groupe Canal+ annonce avoir acquis les droits de diffusion en France de la Première Ligue, le championnat anglais de foot pour 3 saisons supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'à 2024-2025.
C'était le journal d'Isabelle Millet. À demain Isabelle. La météo à présent, la tendance, ma chère Marlène Duré.
Oui, où est-ce qu'on va trouver du beau temps, ça vous intéresse?
Ouais, bah oui, je serais bien que ça arrive un moment, dans le nord, parce que dans le sud il fait pas mal.
Ah bah oui, du côté du Roussillon, c'est bien demain, des plaines dans les plaines de Provence aussi, en vallée du Rhône, du côté des plages méditerranéennes où Mistral et Tramontane souffleront modérément, sur les plages corses aussi bien sûr. Ailleurs, le temps restera incertain, instable, avec encore des averses. La zone la plus instable demain, on va la retrouver de l'Alsace aux Alpes centrales. générale avec des averses sous un ciel assez gris d'ailleurs au petit jour. Cette zone débordera un petit peu sur la Bourgogne le matin et puis vers les Alpes de Haute-Provence, l'extrême est de la Drôme et une partie des Alpes-Maritimes l'après-midi et ça peut tourner à l'orage près du relief. Des averses vont se déclencher aussi l'après-midi sur le quart nord-est du pays, sur le bassin parisien, les Hauts-de-France et puis enfin le long des plages de l'Atlantique. Les averses du matin se feront plus rares en journée, sauf peut-être dans le Limousin. Partout ailleurs, eh bien, le soleil jouera des coudes hein, parce qu'on aura quand même pas mal de nuages. On va terminer avec quelques températures, Thierry. Oui. 17 degrés au Touquet, c'est 19 peu. Au Havre. Oui, c'est vrai. 21 dans la Nièvre et le Puy-de-Dôme. Nous aurons 22 à Bordeaux, Lyon et Strasbourg. 23 dans la capitale comme aujourd'hui. Ouais. 26 à Narbonne. 28 à Cannes. Une moyenne de 30 degrés encore. C'est comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut attendre vraiment vendredi et ce week-end pour avoir une hausse des températures.
Merci beaucoup, Marlène. Allez, restez avec nous dans un instant, votre club des idées. Ce soir, on va parler bien sûr cinéma. Est-ce que l'industrie a trinqué après cette pandémie? Mais juste avant, tous les soirs de l'été, rendez-vous pour une découverte littéraire avec Stéphane Place, en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Ce soir, un roman 1991, un roman signé Franck Iliès.
Dans Lucas, paru il y a 2 ans, le commandant Franck Charcot flirte avec la soixantaine. Même les personnages de romans policiers finissent par prendre de l'âge. Mais, gros avantage, leur créateur peut aussi leur offrir un bain de jouvence, un retour vers le passé. C'est ce que fait Franck Tillier dans ce nouveau polar 1991, précisément l'année où l'on retrouve Charcot, fraîchement diplômé de l'école de police et qui vient d'arriver au mythique 36 quai des Orfèvres. Voici le jeune inspecteur collé aux archives où il doit reprendre une vieille affaire, un cold case, jusqu'à cette soirée où un homme, affolé, se présente entre ses mains la photo d'une jeune femme ligotée dans un lit, la tête dans un sac. Le début de cette nouvelle enquête menée il y a donc 30 ans, période charnière, et en plus d'une intrigue haletante, ce saut temporel a beaucoup plu à Véronique Marot, libraire chez Mola.
On redécouvre les années 90, ou même pour les jeunes lecteurs, une sorte de préhistoire des objets cultes, le Minitel, la cabine téléphonique, le Bebop, l'ancêtre du portable, le magnétophone. On était aussi au balbutiement de l'ADN, où on est vraiment au tout début de cette révolution-là. Et à travers son personnage, il revisite cette époque pleine de charme et en même temps révolutionnaire, parce que c'est le début aussi de l'informatique.
Et dans les services d'enquête, c'est une révolution qui n'a pas toujours suscité un enthousiasme immédiat. Dans 1991, Franck Tillier raconte cette transition entre la police à la papa et celle que l'on connaît aujourd'hui.
C'était terrible pour eux, ce passage. Ça, c'était vraiment 91, où les ordinateurs arrivent dans ces services-là. Ils n'en veulent pas. C'est encore les machines à écrire. C'est on veut écrire à la main. Il y a encore des policiers qui écrivent à la main. Mais ça, on m'a vraiment raconté. Par exemple, aujourd'hui, la police scientifique, les gants, les combinaisons, tout ça. À l'époque, les policiers arrivaient, mais avant 91, ils arrivaient sur une scène de crime. Et puis, il y en a un qui fumait, mais il écrasait sa cigarette dans le cendrier qui était là. Donc, le policier, hein. Parce qu'il n'y avait pas ces tests ADN, voilà, on était un peu... Et puis après, tout a changé, 91, 92. Alors, pour marquer un peu l'époque, c'était l'affaire Guy Georges, une affaire qui permet de resituer l'époque où l'ADN est présent. Il y a eu tout un couac, d'ailleurs, autour de cette affaire. Ça encore, ça m'a servi pour l'écriture. Et donc, j'ai vraiment resitué le contexte avec la technologie de l'époque.
1991, 500 pages pour à la fois savourer ce bond en arrière dans le temps et cette nouvelle intrigue que doit résoudre un Franck Charcot, jeune flic, mais déjà très perspicace et persévérant.
Merci Stéphane Place, le coup de cœur littéraire tous les soirs, en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant sur Europe 1, votre club des idées. Ce soir, on parle cinéma. Un an que les salles obscures étaient fermées. Est-ce que l'industrie a trinqué? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Dites-le nous, 39-21. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et ce soir, dans le Club des Idées, à 19h, bientôt 20 minutes, alors que débute le Festival de Cannes, nous allons nous intéresser à l'industrie du cinéma en France. Les salles obscures retrouvent des couleurs, mais qu'en est-il de l'industrie? Faut-il s'attendre à un rebond ou à un plongeon? Avec nous ce soir, je suis ravi, Dominique Besnier, producteur délégué général du Festival du film francophone d'Angoulême, qui aura lieu, bonsoir Dominique.
Du 24 au 29 août.
Mathieu Charrier est avec nous également depuis Cannes, le chanceux. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Dominique. On a distance tous.
Et Eric Lagesse qui est bien sûr aussi à Cannes, président de Pyramide Distribution et co-président du syndicat des distributeurs indépendants à Cannes. Donc bonsoir Eric.
Bonsoir, et bonsoir Dominique, bonsoir Mathieu.
Eric. Depuis leur réouverture mi-mai, les spectateurs sont de retour dans les salles, avec la levée certes des jauges limitées, la fête du cinéma le week-end dernier. Est-ce que finalement le cinéma a retrouvé des couleurs? Est-ce que ça y est, c'est reparti, Dominique Messner?
En tout cas, le mois de juin était bon, à 8 millions de spectateurs. Exact. L'année dernière, à la même époque, il y en avait 1 million, mais bon, c'était une autre situation. Mais qu'il y a deux ans, c'était...
Et alors qu'il y a l'Euro de foot, alors qu'il a fait plutôt beau et chaud.
Oui, et puis les gens quand même avaient envie d'aller sur les terrasses.
Il y avait une envie,
Et il y a deux ans, c'était 12 millions. Donc on a 4 millions de différence avec après ce qu'on a vécu. Donc je pense que les gens ont envie de voir ça sur les grands écrans, même si pendant un an et demi, ils ont été devant des plateformes ou devant leur télévision. Ouais. Le cinéma, c'est on lève la tête en haut et on regarde un écran. C'est quand même pas la même chose.
Éric Lagesse, dès la première semaine, après plus de 6 mois de diète, plus de 2,2 millions de spectateurs étaient au rendez-vous, malgré une jauge à 35%. Il y a eu bien sûr le couvre-feu. Vous attendiez à une telle reprise ?
Ben oui. Enfin, non, parce que...
Dominique disait une chose très intéressante, pardonnez-moi Eric, c'est que finalement, en effet, pendant quelques mois, on a regardé le soir, dans le lit ou pas, des plateformes vidéo. Est-ce que nos habitudes auraient pu changer finalement ?
Ben, peut-être pas aussi vite, c'est ce qu'on peut espérer, quoi. Donc, moi, pour dire que j'attendais et j'espérais ce regain, c'était que... moi, j'ai sorti un film qui s'appelle L'Étreinte avec Emmanuel Béart le 19 mai. Donc, si je l'ai sorti là, c'est que je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Bon, après, il y a eu une grosse embellie. C'est vrai qu'avec le temps était très mauvais sur la France, que quand on est distributeur, on est dans une position schizophrénique à espérer qu'il pleuve, mais personne n'aime qu'il pleuve vraiment profondément, mais je veux dire, à espérer qu'il pleuve pour que les gens aillent au cinéma et ne restent pas sur les terrasses de café.
Quand il fait très chaud, aussi une bonne solution pour trouver
la fraîcheur. Oui, voilà, exactement. En fait, quand la période est très chaude et que la chaleur dure, en effet, il y a un moment donné, les gens, ils en ont marre d'être dehors et ils ont envie d'être dedans. Mais bon, en tout cas, le fait est que ce début a été formidable. Après, il y a quand même, il y a eu une grosse inquiétude avec le beau temps qui est arrivé, les gens qui préféraient rester aux terrasses et dans les terrasses de café, la jauge qui est montée à 65% avec en même temps le couvre-feu à 23h, qui en finalement n'a pas changé grand-chose. Et je trouve que les entrées ont un peu plongé. Mais c'est vrai que le mois de juin a été bien meilleur. Et bon, après, le mois de juin s'est terminé aussi avec la fête du cinéma, qui a vraiment porté ses fruits pour le coup.
Alors, on va parler dans un instant du risque d'embouteillage. Il y a des moments de films qui attendaient, qui vont sortir. C'est notamment Mathieu Charrier, l'arrivée au mois d'août, l'arrivée de grosses productions. Je pense par exemple à Kaamelott, c'est le 21 juillet. Début août, ce sera au SS 117. Hein.
Mais justement, ça va être intéressant de voir, pour compléter ce que disaient Dominique et Eric, ça va être intéressant de voir comment le public réagit cet été, parce que traditionnellement, en France, l'été, vous avez assez peu de grosses productions françaises qui sortent. Vous avez parfois des grosses productions américaines, mais peu de grosses productions françaises. Et là, effectivement, Kaamelott et OSS, c'est des films qui doivent faire plusieurs millions d'entrées, en théorie. Et donc, on va voir aussi si les gens retournent en salle. Et vous savez, c'est l'effet entraînant, c'est ce qu'on dit toujours, mais quand vous allez en salle une première fois pour voir, par exemple, Kaamelott, vous avez des bandes-annonces qui sont avant le film et ça vous donne envie de revenir éventuellement voir un autre film. Donc en fait, on sait que lorsqu'il y a des gros films qui marchent, ça tire aussi les entrées des plus petits ou des films moyens. Et donc, ces deux gros films français qui sont programmés cet été, ça va être intéressant de voir les entrées qu'ils font et de voir s'ils tirent la fréquentation des salles en juillet et en août.
C'est intéressant, Eric Lagesse. Ça veut dire, moi, je pensais vraiment que les gros films comme ça pouvaient écraser les petits films.
Non, pas du tout. Ça entraîne toujours et quelquefois, souvent on se dit, moi je me souviens quand j'étais agent ou même producteur, quand il y avait des grandes sorties, on va surtout pas prendre notre film d'auteur face à ce mastodonte. Et quelque part, ça, au contraire, c'est des vases communicants. Ouais. Enfin, moi je pense ça. Et pour vous dire quand même, c'est un bon indice, parce que nous on a commencé la location pour le Festival d'Angoulême il y a deux jours. Et on n'a jamais eu, dès le premier jour, comme ça, autant d'achats de passes. Ouais. Donc c'est un signe quand même. Hein.
Éric Lagesse, donc c'est bon pour le président de Pyramide Distribution que vous êtes.
Oui, ben en fait, Angoulême prend beaucoup d'importance, ça c'est clair, je veux dire partout. Et c'est vrai que c'est toujours difficile entre les événements ponctuels comme ça, qui sont souvent très festifs, et puis le quotidien, je veux dire, de la salle, c'est-à-dire sortir des films toutes les semaines et tout, c'est pas exactement la même chose.
Mais pour
répondre à votre question, en fait, les gros films ne font pas de mal vraiment aux petits. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas toujours le même public. Le public qui va aller voir au CS 117, c'est sans doute pas le public qui ira voir un film un peu plus pointu.
Donc
en fait, Voilà, mais en fait, aller au cinéma, Mathieu a tout à fait raison. Aller au cinéma, c'est voir des bandes annonces, mais c'est pas que ça aussi. C'est-à-dire aller au cinéma, c'est prendre du plaisir pour en voyant un film et sans doute vouloir y retourner en fait. Ouais. Et ça, c'est hyper important. On sait bien que ben voilà, moins on mange, moins on a faim. Donc voilà, c'est comme ça. Et je pense que il faut absolument que ça reparte. Les Américains sont pas encore là, donc c'est vrai que ça laisse beaucoup de place aux Français.
Et oui.
Bon, et quand les Américains vont débarquer, ça va être une autre paire de manches.
Mathieu Charrier, vous en avez souvent parlé sur l'antenne, ce fameux risque d'embouteillage, les craintes des professionnels se portaient sur le risque d'embouteillage des films, environ 450 films qui sont prêts, il faut maintenant désormais les distribuer. Est-ce que ce bouchon, il existe réellement? Est-ce que finalement, les films restent très peu à l'affiche?
Alors, le bouchon, il existe. Ce serait hypocrite de dire qu'il n'existe pas. D'ailleurs, hier soir, à la cérémonie d'ouverture de Cannes, vous avez la maîtresse de cérémonie, Doria Tillier, qui a fait lever un moment dans la salle des réalisateurs de films qui étaient sélectionnés à Cannes l'année dernière. Vous savez, qui avait reçu le fameux label, puisqu'il n'y avait pas eu de festival. Et dont, pour certains, les films ne sont toujours pas sortis. Je pense notamment à Laurent Lafitte. Donc, évidemment qu'il y a des films qui attendent. Et qui passera Angoulême, donc il aura une belle carrière. Mais évidemment qu'il y a des films qui attendent sur les étagères. Et évidemment qu'il y a des films qui, du coup, sortent en salle. Et font pas les entrées qu'ils auraient dû faire, ou en tout cas font un petit peu moins. Après, vous savez, on criait aussi il y a quelques semaines, on n'arrêtait pas de dire « Oh là là, tous ces films, ils vont se retrouver sur Netflix, sur Prime Video, etc. » Pour l'instant, il y a très peu d'exemples. À part « Comment je suis devenu super-héros » qui sortira vendredi sur Netflix et qui devait sortir en salle, il y a assez peu d'exemples de films qui vont directement sur les plateformes. Donc ça veut dire que les distributeurs y croient, ça veut dire que les salles y croient et que tout le monde a bien l'intention de leur faire une petite place à un moment. Donc oui, il y a un embouteillage, mais il n'est peut-être pas si monstrueux que ça. Il va falloir voir dans les prochains mois.
Et juste avant de marquer une pause, je me tourne vers vous, Éric Lagesse. Est-ce que cet embouteillage peut être fatal aux films d'auteur?
Oui, en fait, ça ne contredit pas du tout ce que je disais sur les gros films et les petits films. Mais je veux dire, si on est beaucoup de petits films à sortir en même temps, évidemment, le public va se diviser. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas peur de sortir face au CS 117, par exemple. Je pense que ce n'est pas mon public. En revanche, j'aurais peur de sortir face à 3, 4, 5 films qui pourraient diviser mon public par 5.
Alors, moi, je peux vous dire que j'ai vu énormément de films pour Angoulême, notamment des films qui sont présentés à Cannes ou pas à Cannes. Je peux vous dire que la diversité et la richesse des films qu'on a vus, honnêtement, ce n'est pas pour faire cocorico, mais il y a vraiment beaucoup de films très talentueux. Et je trouve que ce Covid n'a pas affaibli l'imaginaire. Et franchement, on a eu du mal à faire une sélection tellement on devait partager des films très très bons.
Allez, on continue dans un instant. Vous restez avec nous, l'état du cinéma français après la pandémie. On continue à en parler avec vous également à 39-21. A tout de suite.
Thierry Dagiral.
19h30 sur Europe 1, on regarde un peu l'état du cinéma français ce soir avec du beau monde. Dominique Besnéard, producteur délégué et délégué général du Festival de films francophones d'Angoulême. Bien sûr, agent célèbre Mathieu Charrier, chef du service Société Culture d'Europe 1 qui est à Cannes. Et Éric Lagesse à Cannes également, président de Pyramide Distribution et co-président du syndicat des distributeurs indépendants. Je voudrais qu'on écoute également nos auditeurs qui nous appellent au 3921 comme Arthur. Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Vous avez 20 ans, vous êtes étudiant à Paris, vous êtes en école d'ingénieur. Fan de cinéma, vous êtes retourné dans les salles obscures.
C'est ça. Et d'ailleurs, j'y retourne encore ce jeudi.
Ouais.
Donc,
vous avez fait plein avec la fête du cinéma.
Vous allez voir Annette, non?
Alors, je vais voir Black Widow, donc on est dans un contexte un peu différent, mais bon, ça reste principalement... du cinéma.
Ouais.
On en profite parce que bon voilà, on a eu quand même une période où c'était beaucoup fermé. Je connais beaucoup de personnes qui maintenant ont plus tellement l'envie d'y aller parce qu'ils disent avec toutes les plateformes de streaming.
C'est mais ça, moi, c'est ça, c'est votre génération surtout. C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas concerné par ça? Il y a plein de jeunes qui disent finalement aujourd'hui, on peut télécharger des films, aller sur les plateformes, finalement aller prendre son billet pour s'enfermer dans une salle.
Sauf que sur les plateformes, bon, à part les séries qui sont souvent bonnes, des fois les films, à part les films du patrimoine, c'est souvent des films pas géniaux quand même. Hein. moi, je regarde Netflix pour les documentaires et pour les séries. Le cinéma, franchement, c'est pas les meilleurs films. Je sais pas si vous êtes d'accord. Et voilà, donc il y a quand même un problème.
Totalement,
vous dites quoi, vous, Arthur, du coup,
SF117.
Comment vous essayez de convaincre vos camarades, du coup, vous leur dites quoi?
Tout simplement parce que déjà on a, comme on le dit, voilà, les nouvelles plateformes de streaming qui maintenant proposent des films qui sortent directement dessus.
Ouais.
Parce que voilà, avec le Covid, on ne pouvait plus sortir en salle. Je pense qu'ils en ont bien profité avec le Covid pour étendre leur empire. Mais voilà, oui, c'est pour principalement aller voir des films qui ne sont pas disponibles en ligne, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire la queue comme tout le monde, faut aller en cinéma. Et surtout, je trouve qu'il y a quand même des sensations audio et visuelles beaucoup plus intensives. Mais... Enfin, je veux dire, voilà, on en profite beaucoup plus en regardant sur un écran, dans un siège confortablement assis dans le noir que sur son téléphone.
Mais surtout, Thierry, c'était le même Mathieu débat il y a 20 ans avec la musique. C'est-à-dire, quand on a vu arriver le MP3, la possibilité de graver des CD, on a dit le monde de la musique est mort, c'est fini, etc. Aujourd'hui, vous avez des offres qui se sont adaptées et vous avez des festivals de musique et des salles de concert qui sont pleines à ras-bord, à quasiment chaque concert. Encore, vous vendez les places en une heure. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a forcément une petite mutation qui va se faire dans le milieu du cinéma et dans la consommation qu'on peut faire des films. Maintenant, imaginez que les gens n'iront plus du tout en salle parce qu'ils seront très contents d'être dans leur salon. Je pense que c'est assez restrictif comme vision. Les gens, oui, moi je connais même des personnes qui ont découvert des films sur les plateformes, qui ont découvert le plaisir de re-regarder des films, et pas forcément que des séries, notamment des jeunes, et qui aujourd'hui ont envie d'aller dans les salles aussi pour voir des films parce que ça reste un spectacle. Ben oui, et puis qu'on partage ensemble, c'est-à-dire qu'on est ensemble dans une salle,
c'est ça, bien sûr.
On partage des émotions, donc évidemment qu'il y a quelques personnes qui vont préférer être dans leur salon en caleçon en train de regarder un film, mais il y en a aussi beaucoup qui veulent aller dans les salles, qui veulent retrouver le plaisir de regarder un film ensemble, de lever la tête, d'avoir toute l'ambiance qui va avec une salle de cinéma. Donc je pense pas qu'il faut forcément toujours opposer les salles et les plateformes.
Ouais. Vous êtes trop jeune, mais quand la télévision, il y a eu deux chaînes françaises ou trois chaînes, on disait le cinéma, les gens vont regarder la télévision. À un moment donné, il y a eu un recul de la fréquentation dans les années 60. Et après, les gens sont venus. Je veux dire, ils ont besoin d'être ensemble. Et de, comme vous dites, d'avoir des émotions communes.
Merci à Arthur de nous avoir contactés au 39-21. Tout de même, Éric Lagesse, les chiffres, il faut les donner. Hein, Éric Lagesse, président de Pyramide Distribution. Netflix, aujourd'hui, c'est 200 millions d'abonnés. Disney+, plus de 100 millions. Amazon, 170 millions d'abonnés. Mine de rien, c'est un manque à gagner pour vous ?
Sans doute. Je veux dire, Je ne pense pas que ça puisse être autrement. Ça ne peut pas en être autrement. Après, si vous voulez, il faudrait voir précisément la catégorie, les gens qui s'abonnent à Netflix et autres plateformes, et ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix, par exemple. Moi, ce qui m'inquiète un peu en tant que distributeur de films d'auteur, puisque moi j'ai une ligne très film d'auteur pointu parfois, et film d'auteur plutôt, je dirais, ouvert, plus populaire, c'est que mon public est très vieillissant. C'est-à-dire qu'en fait, mon jeune public, il a 40 ans.
Ouais.
Et moi, je n'arrive pas à capter un public qui a 20 ans. Moi, je viens de sortir un film, un documentaire qui s'appelle Anne Galante, qui est un documentaire sur le spectacle de Les Anne Galantes qui a été monté par Clément Cogitor à l'Opéra Bastille il y a donc un an et demi, qui est un truc incroyable puisque ça lie la musique baroque et la danse de rue. Donc en fait, c'est 30 danseurs de rue qui ont 20 ans, qui ont 18 ans, qui ont 25 ans, qui ont dansé pour la première fois de leur vie à l'Opéra Bastille pendant 3 semaines en faisant des salles pleines à craquer, complètement enthousiastes. C'est un documentaire qui retrace toute cette histoire-là. Mais moi, je vois bien sur les salles le public que je capte. Je continue à capter un public que j'adore, hein, mais un public cinéphile, un public plutôt âgé, un public qui va à l'opéra, qui connaît l'opéra, et j'arrive pas à capter un public jeune.
C'est quand même
ça, c'est quelque chose.
Ouais. Les jeunes ne vont pas non plus à l'opéra, c'est même pas pour le prix des places. L'opéra, on le découvre pas à 20 ans. Hein.
Mais finalement, l'opéra, il dure 3 heures. Ouais. On peut penser que l'opéra est ennuyeux quand on est jeune. Mais je veux dire, là, c'est un film de 1h50, 1h49. Et puis c'est un film qui pourrait parler à ces jeunes-là. Et on a tout fait. On a fait Instagram, on a vraiment travaillé sur cette communauté qui ne se déplace pas. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, qui m'inquiète vraiment. C'est l'éducation à l'image, en fait.
Ouais. Et Dominique Messner, ça leur donne aussi à ces plateformes finalement un poids colossal, bien plus que d'autres, que n'importe quel diffuseur.
Oui, mais moi, je ne regarde pas des films sur les plateformes, donc je suis Non, mais par exemple, là où je te rejoins... la geste, Eric, c'est que j'étais au festival de La Rochelle, qui est un festival assez pointu, cinéphile, avec des des grands hommages à des grands cinéastes. Et je m'aperçois que le public, en effet, n'est pas tout jeune et que je vois très peu de jeunes dans des salles pleines. On a, donc, ça veut dire que le public qu'il faut éduquer pour le cinéma exact. D'auteur, il n'est pas là, c'est vrai. Mais et il faut vraiment que nous...
Qu'est-ce qu'on peut faire, justement ? La question, c'est celle-ci, alors.
Eh bien, peut-être que les... Mais quelquefois, les profs, refaire les ciné-clubs, refaire... parler... Moi, j'ai eu des profs qui m'ont présenté la règle du jeu, m'ont présenté les Renoirs.
C'est vrai.
C'est aussi les profs qui doivent faire ça. Mais bon, quelquefois, ils ont tellement de travail, j'en sais rien. Je ne vais pas refaire l'éducation nationale. Mais je pense que ça vient... Une fois qu'on a goûté au cinéma, je pense, et qu'on a une éducation, je pense qu'on ne peut plus s'en passer après.
Éric Lagès, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire revenir... Parce que la question se pose d'ailleurs aussi pour les médias, pour l'écoute de la radio, de la télévision, pour la lecture des journaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intéresser les jeunes et les faire revenir dans les salles obscures ?
Alors moi, j'ai déjà beaucoup de travail sur le cinéma, donc je vais pas parler des journaux et de la télé. Donc déjà, je vais me concentrer sur le cinéma. Non, je dirais qu'il y a vraiment un gros boulot du côté du ministère des Cultures et du ministère de l'Éducation. Après, il y a des systèmes. Hein, il y a des... Nous, on arrive à rentrer certains de nos films dans, et ce que j'espère qu'Anne Galante rentrera, mais dans lycéen au cinéma, collège au cinéma, etc., où en effet, on a fait des scores absolument formidables sur des films comme Fatima de Philippe Faucon ou Tomboy de Céline Sciamma, où des classes entières sont allées et continuent à y aller. Donc, il y a cette éducation à l'image. Il ne faut surtout pas perdre ces budgets-là, parce qu'ils sont super importants. Et à un moment donné, ils étaient un peu menacés. Là, je crois que ce n'est plus trop le cas. Et puis, continuer à se battre. Et comme dit Dominique, moi, en tant que cinéphile, c'est les ciné-clubs qui m'ont formé. Moi, les ciné-clubs, à l'école. À l'école.
C'est vrai.
À l'école et à la télévision.
C'est vrai
et à
qu'il
la télévision,
faut,
pour le coup.
Il faut
parce
les empêcher de regarder les Marseillais, là, que cette télévision qui est regardée par les jeunes, dont je ne connais pas la chaîne qui fait ça. C'est, ouais. Je suis tombé là-dessus, j'ai cru, mais j'allais presque taper ma télévision. Vous avez Marseillais, là, vous n'avez jamais vu
restez
ça.
Restez calme, Dominique. Allez, on revient dans un instant, restez avec nous, messieurs. L'état du cinéma français, on en parle ce soir. Et on revient dans un instant avec vous au 39-21. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Comment va le cinéma français ? On en parle ce soir avec Dominique Mesner, producteur et délégué général du Festival du film francophone d'Angoulême, Mathieu Charrier, chef du service Société Culture d'Europe 1 qui est à Cannes, ainsi que Éric Lagès, président de Pyramide Distribution et coprésident du syndicat des distributeurs indépendants. Et avec vous, au standard 3921, est-ce que vous nous avez contacté ? Est-ce qu'on a un auditeur ? Pas encore, on va le joindre dans un instant. En tout cas, ça fait réagir et ça fait réagir les jeunes, Dominique. Ça, c'est bien. On parlait des plateformes. Je voudrais juste dire, sur le financement des films aujourd'hui dans le temps. Canal+, par exemple, qui investit beaucoup dans le cinéma.
Mais toujours,
a réduit quand même depuis quelques années. Est-ce que finalement, ce sont les plateformes qui vont aujourd'hui mettre de l'argent dans le cinéma ?
Pas vraiment. Ils achètent des films ou ils font leurs propres films. Mais moi, pour le moment, j'ai jamais eu un film. Alors, une fois les films terminés, ils les achètent.
Oui.
Mais ils ne sont pas là pour fabriquer le film.
Pour l'instant,
en tout cas, pas avec moi.
Mathieu Charrier ?
Oui, bah alors après, il y a tout un. Vous savez, c'est un peu technique, mais il y a toute une grande réflexion qui est menée sur ce qu'on appelle la chronologie des médias.
Oui, c'est-à-dire qu'en France. En même temps.
Qui est en train de se mener en parallèle. C'est-à-dire qu'en France, quand un film sort en salle, il y a toute une durée avant qu'il puisse sortir sur une télévision payante, puis sur une télévision gratuite, etc. etc. Aujourd'hui, Netflix, par exemple, s'il sort un film en salle, ils doivent attendre 3 ans pour pouvoir le mettre ensuite sur leur plateforme. Donc évidemment, ils expliquent que pour eux, et c'est compréhensible, c'est pas envisageable. Donc ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir le mettre avant sur leur plateforme. Sauf que Canal+, qui est le premier diffuseur en télévision payante, dit « Ah ben oui, mais si eux, ils peuvent le mettre si vite, il faut que moi, je puisse le mettre plus vite aussi. » Donc, tout ce beau monde est en train de discuter et il va falloir, de toute façon, à un moment donné, aboutir à un accord. Après, aujourd'hui, l'argent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il est aussi sur les plateformes. Donc, trouver une bonne entente pour que tout le monde puisse
ça,
à la
possible,
fois peut-être...
Mathieu, c'est possible ou
mais,
pas
bah, vous moi, trouvez... vous savez, je suis un éternel optimiste, donc j'espère que oui.
Moi
non,
aussi.
Mais après, c'est oui, c'est-à-dire que si... Après, c'est peut-être un modèle qui a totalement à réinventer. Peut-être que demain, vous aurez un film qui sortira quasi simultanément à la fois en salle et sur une plateforme. Est-ce que les gens, pour autant, préféreront le regarder dans leur salon ou parfois se diront, bah, je vais mettre un peu d'argent pour aller le voir en salle ? On ne sait pas. Peut-être qu'un film sortira en salle, puis deux ou trois mois après seulement sur la plateforme, et que pour autant, quand vous voyez les chiffres que font notamment les Marvel lorsqu'ils sortent en salle, même si Eric Lagesse va me dire que ce n'est pas les films d'auteur, et je suis bien d'accord avec lui, mais quand vous voyez les chiffres que font ces films-là, ça veut dire que les gens sont encore d'accord pour payer cher pour aller voir un film dès le premier jour de sa sortie. Parfois, vous faites plusieurs dizaines de milliers d'entrées le premier jour. Donc voilà, c'est un modèle qui est en train de bouger. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que ça se réinvente et que c'est en train de se réinventer. Mais il y a de la place pour tout le monde.
J'ai vu que Back North, le film de Cédric Jiménez, il va sortir donc en salle, mais il sera à l'étranger, dans les autres pays étrangers. Il sera sur Netflix directement.
Oui, Netflix a acheté les droits de diffusion pour le monde entier, sauf la France.
Voilà, donc ça, ça peut être intéressant aussi.
Je voudrais qu'on vous entende, Éric Lagesse, justement sur cette question-là, en échange de leur investissement dans la création, les géants du streaming obtiennent un délai raccourci pour diffuser les œuvres après leur sortie au cinéma. Ça vous inquiète aussi, ce qui est en train de se passer, ces changements dont
Mathieu... C'est pas fait. C'est vraiment pour être à moitié noyé dans cette histoire et dans ces négociations depuis à peu près un an. Ce qu'on appelle le décret SMAD, en fait, je veux dire, c'est pas du tout fait, parce qu'il y a de la résistance, évidemment, dans tous les sens, et que ça risque aussi de débalancer complètement un système de préfinancement mené, évidemment, en tête par Canal+, qui marche quand même très bien aujourd'hui en France. D'une certaine façon... en fait, l'idée, c'est d'obliger, comme toutes les chaînes, aussi bien publiques que payantes aujourd'hui sur la France, d'obliger les SMAD, donc les plateformes, à investir un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires dans la création française. Mais on parle de création audiovisuelle et cinématographique. Il faut quand même juste préciser que 80% seraient dédiés à la création audiovisuelle et 20% à la création cinématographique. Donc, il faut quand même voir si ces 20% finalement sont assez rentable pour le cinéma français pour aller éventuellement débalancer un système qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en fait.
39-21, on vous écoute bien évidemment tous les soirs. 39-21, vous nous contactez. Je voudrais qu'on aille à Toulouse rejoindre Patrick. Bonsoir Patrick.
Bonsoir,
Mulhouse.
C'est pas vraiment Toulouse, c'est Mulhouse, mais bon.
Pardonnez-moi,
c'est pas le même accent.
C'est pas vraiment pareil. Non, je voulais juste intervenir.
Vous avez quel âge?
Je suis plus tout jeune, j'ai 55 ans.
D'accord.
Mais je voulais surtout témoigner le fait que les cinémas réouvrent, c'est un vrai bonheur. Bon, j'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais j'ai vite y retourner. C'est vrai que le cinéma pour moi, c'est beaucoup d'émotions, c'était aller en famille, aller avec les enfants. Vous parliez tout à l'heure des classes qui vous emmenaient au cinéma. Moi, je me rappelle d'aller voir un film à 16 ans ou 17 ans à l'école avec la classe, on est allé voir Gandhi. Alors, c'était un film que je ne serais jamais allé voir tout seul. En tout cas, c'est des vraies émotions. Et effectivement, M. Bessner a dit que certaines émissions de télévision aujourd'hui sont complètement... Il ne l'a pas dit, mais je vais le dire pour lui, ils sont complètement débiles et il a bien raison. Et il vaut mieux se faire une belle toile et aller voir des bons films, même si des fois ça peut être un peu compliqué, certains films d'auteur. En tout cas, le plaisir du cinéma, c'est autre chose qu'une télé, un écran noir.
Mais c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est comment réintéresser nos mômes au cinéma à l'ancienne, au cinéma
papa. En les emmenant et peut-être en repassant aussi, même dans des grands cinémas, en ayant peut-être quelques séances où on passe des films mythiques. Je sais pas, Elle était une fois à l'Amérique, des films français, Coup de torchon, enfin j'ai pas... Il y a plein de films, mais redécouvrir le cinéma.
Ouais,
voilà, même des vieux films, je sais pas, Le Pacha, où j'ai pas tout en tête, mais des films sympas qu'on a tous vus et revus, mais quand vous voyez un film au cinéma, c'est autre chose qu'à la télé.
Alors par exemple, nous à Angoulême, on fait l'ouverture avec un film grand public et qui est très réussi, c'est Eiffel, sur l'histoire de Eiffel, qui a fait la tour Eiffel, et c'est un film vraiment digne du cinéma américain dans les meilleurs films américains. C'est vraiment... Et là, c'est un film qui est rassembleur.
Merci à vous, Patrick de Mulhouse, de nous avoir contacté ce soir.
Revenez quand vous voulez.
Merci, vous aussi. Je voudrais qu'on termine juste, messieurs, rapidement. Il y a eu un événement important, le rachat de MGM par Amazon. Est-ce que ça annonce une révolution pour continuer, Dominique Bessner, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur finalement le financement qui arrive de l'extérieur?
Alors là, j'avoue, Amazon ou MGM, ça c'est Éric Lagesse ou Charrier qui vont répondre. Hein.
Moi,
mon voisin de production était racheté par Media One. Voilà, chacun est dans ses proportions.
Éric Lagesse.
Bah, je sais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le catalogue MGM tombe dans Amazon maintenant et qu'il sera disponible sur Amazon.
Mathieu, ce qui se passe là. Ouais.
Oui, c'est ce que dit Eric. C'est-à-dire qu'ils rachètent la MGM qui produisait plus énormément de choses aujourd'hui. Donc ils rachètent un catalogue. Donc ça veut dire qu'effectivement, un jour, vous aurez dans pas très longtemps les James Bond et plein d'autres grands films de la MGM sur Prime Video. Mais de toute façon, ces films-là aujourd'hui, ils passent pas en salle. Et si vous ne les regardez pas sur Prime Video, vous les regardez en DVD. Donc évidemment que c'est un bouleversement.
Ça veut dire qu'à terme, Amazon pourra dire finalement je ne veux pas que ce film soit diffusé dans les salles de cinéma.
Bah, si l'on produit, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Après, encore une fois, Thierry Frémaux, je vais reprendre ses mots de la conférence de presse ici à Cannes. Et à chaque fois, la réponse qu'il fait, c'est « citez-moi un grand réalisateur de cinéma qui est né sur une plateforme ». Et personne n'est capable d'en citer, puisqu'en fait, aujourd'hui, les plateformes, les films de grands réalisateurs, de Scorsese, etc., bah, c'est des gens qui sont nés dans les salles. Donc, évidemment que ces plateformes font vivre le milieu du cinéma, rachètent des films, achètent des droits, diffusent, etc. Pour l'instant, ils n'ont pas fait émerger de grands réalisateurs ou de grandes réalisatrices. Donc, il faut bien qu'ils émergent quelque part. Donc, c'est encore une fois, je pense, complémentaire.
Merci, merci, merci à vous trois. Merci. Bon festival de Cannes. Bon festival d'Angoulême. Dominique.
Angoulême, 24 au 29 août. Mais Mathieu, il sera là, puisqu'il est d'Angoulême.
Mais c'est ma ville. C'est le plus beau festival du monde d'Angoulême.
J'ai dit à Thierry, il ne le savait pas.
Mais écoutez,
mais bon festival. Il y a lui et il y a Léla Kadour aussi qui vient de la région.
Allez, bon festival à vous. Vive le cinéma dans un instant. Le jour où, mais d'abord un peu de musique, c'est le petit protégé de Pharrell Williams, l'américain, Chris Cab sur Europe 1. Bon début de soirée. Liar, Chris Cab sur Europe.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Le jour où tous les soirs on s'arrête sur un événement du passé, une date, une histoire. Ce soir, Julien Bugier et Pierre Herbulot s'arrêtent sur le jour où les hôtesses du Tour de France ont disparu pour cause de sexisme.
C'est hier, que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir Julien, bonsoir.
Vous nous avez rejoint, on va partir avec vous dans la roue du Tour de France. La fin des hôtesses tout sourire sur le podium qui donnait le bouquet au vainqueur. Eh bien, c'est fini et moi j'ai envie de dire c'est tant mieux. Expliquez-nous.
Oui, en fait, on va s'en rendre compte ensemble en remontant le fil de l'histoire. On va se mettre dans l'ambiance d'abord avec cette cérémonie protocolaire de fin d'étape. On est le 20 juillet 2019, le Français Thibaut Pinot remporte la course du jour.
Vainqueur de cette superbe étape donc, qui arrivait ici au col du Tourmalet, donc récompensé par les hôtesses continentales qui remettent la médaille bien sûr à Thibaut Pinot, le bouquet de fleurs qui
est. Et ça c'est donc terminé Julien, pas le bouquet de fleurs mais les hôtesses, ces jeunes femmes recrutées par des agences de mannequins qui sont placées de chaque côté du vainqueur d'étape, un sourire splendide, habillé d'une tenue extrêmement légère, il faut le dire, et chaussée de talons hauts. Il est d'usage qu'elles fassent la bise aux coureurs, une, deux ou trois, en leur remettant un bouquet de fleurs. Alors, sexisme ordinaire et rétrograde ou folklore de la compétition, la direction de la Grande Boucle a fini par trancher et a choisi de ne pas choisir. Il y aura toujours cette année une hôtesse, mais elle fera la paire avec un hôte.
Ah, parité engagée et tenue. C'est vrai qu'il y a un débat, mais la présence des hôtesses sur le podium est pourtant presque aussi ancienne que le Tour de France.
Oui, la première archive où l'on peut voir une hôtesse sur la Grande Boucle date de 1928. Elle est beaucoup plus habillée que celle d'aujourd'hui, collant, foulard, mais arbore le même sourire en distribuant son énorme bouquet de fleurs. Yvette Horner, que vous reconnaissez
Horner,
peut-être derrière cet accordéon, a rempli ce rôle pendant 11 ans dans années 50. Celles que l'on appelle désormais les Miss Étapes deviennent indissociables du Tour de France. En 1996, Laurent Delpech, journaliste à Europe 1, en rencontre une pour son reportage.
Pour être une des quatre filles qui montent sur le podium tous les soirs, le casting a été sévère. Il y avait 40 candidates présélectionnées dans des agences de mannequins.
Nous avons eu des entretiens, nous sommes montés sur un podium, ils nous ont filmé pour regarder ce que ça donne sur la télé. Et là, donc, ils ont choisi quatre filles, et c'est nous. Pendant la journée, on reçoit donc les invités. Bien sûr, nous sommes dans le caravane de publicité, on double le caravane pour aller au village d'arrivée. Mmh. Et bien sûr, le soir, donner le maillot jaune.
Vous l'entendez, Julien, cette hôtesse néerlandaise, Karine, 23 ans, explique bien qu'elle a du travail en journée, que son rôle, en somme, n'est pas seulement celui d'une plante verte.
Puisqu'on arrive au début des années 2000 avec les premières polémiques, c'est là que ça commence, c'est ça ?
Exactement, distribuer des goodies ou faire de la pub sur la route du Tour ne suffit pas pour justifier leur fonction de potiche. Ça, c'est ce que disent les associations féministes. La parole se libère de plus en plus et les témoignages d'agressions et de harcèlement sexuel se multiplient. En 2013, le coureur slovaque Peter Sagan est photographié en train de pincer les fesses d'une hôtesse sur le Tour des Flandres. L'an dernier, Élise Dangean de la rédaction d'Europe 1 enquête, témoignage édifiant de la profession.
Ces femmes, vous les croisez tous les jours sur les salons, dans les meetings sportifs ou culturels, talons hauts, chignons impeccables. Et sur Twitter, elles racontent leur quotidien face à des hommes qui ne se gênent pas. Je cherche un plan cul, vous êtes intéressé? Ou encore, est-ce que je te gagne avec le jeu concours? Et bien souvent, c'est pire que de la drague lourde. Par exemple, quand Alice était hôtesse pour une soirée d'entreprise.
C'était un grand patron, il m'a touché le sein, il m'a pris les poignets, il m'a forcé à danser avec lui. Il faut savoir que c'était avant MeToo, moi je devais avoir 18 ans à tout casser. J'en ai parlé quand même à mon agence. Derrière, ils n'ont rien fait concrètement. Ils m'ont même dit que cet homme-là, il s'en était pris à d'autres hôtesses. Mon agence, elle m'a envoyé au casse-pipe, quoi.
Donc fini les hôtesses, et je le redis, c'est tant mieux, parce que la pression était forte aussi au vu de cette enquête.
Un grand pas en avant pour les associations féministes. La direction de la course ne dit rien, en revanche, sur la traditionnelle bise. Pas nécessaire peut-être de faire une annonce en pleine crise sanitaire.
Le jour où, signé ce soir, Julien Bugier et Pierre Herbulot. Dans un instant, le rappel des titres avec Julien Peirce. Puis Europe 1 Football Club. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Thierry.
Quelle belle soirée ça va être,
n'est-ce
encore.
Pas,
hein.
N'est-ce pas? Après celle d'hier, ouais. Extraordinaire, et la victoire de l'Italie lors de la séance des tirs au but face à l'Espagne. Angleterre-Danemark, effectivement, qui sera donc l'adversaire de l'Italie en finale. L'Angleterre avantagée, comme on le dit souvent, puisque l'Angleterre joue à Wembley la plupart de ses rencontres, et ce sera le cas ce soir. On suivra cette rencontre en intégralité sur Europe 1 avec Jean-François Pérez et Cyril Delamorinerie, avec nos experts, les grands débats, pourquoi tout le monde aime cette Italie-là et comment Gareth Southgate a changé cette équipe d'Angleterre. On verra ça avec Aline Riera, Ludovic Obraniak, Luc Sonor, Philippe Doucet. Puis on a une invitée VIP ce soir, c'est Marion Bartoli.
Ah ouais.
qui adore le football, vraiment, mais on lui demandera de dire un petit mot sur l'élimination de Roger Federer à Wimbledon.
Superbe soirée, on reste à l'écoute, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup Lionel. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bien sûr demain dès 18h. D'ici là, on écoute Le Monde Changer.